Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Shvurot, page 47, Daf Mem Zayin. Bonne écoute et bon limoud.
La Gemara rapporte un extrait de la Mishnah. Aya echad mehem mesachek bekubia. Si une des deux parties était quelqu'un qui faisait des paris sur les deux, sur les dés, chose qui est interdite, pour une raison très simple, Rabbanan savent que lorsqu'une personne parie, alors elle est sûre qu'elle va gagner. Et en fait, elle est prête à gagner de l'argent, mais elle n'est pas prête à perdre. Et lorsqu'elle perd, alors lorsqu'elle débourse de son argent, c'est de mauvais cœur et elle n'a pas du tout envie. Donc la Rabbanan nous dit qu'une personne qui fait des paris, lorsqu'il gagne, puisqu'il prend l'argent de son ami sans que son ami ait envie de lui donner, c'est un peu considéré comme du vol. Et donc, Ramim ont interdit de faire des paris sur de l'argent. Et donc maintenant, quelqu'un qui joue sur les dés et qui parie sur les dés, alors s'ils ont mis une somme, s'ils ont mis de l'argent dans ce pari, c'est une chose qui est interdite. Et donc une personne, pareil, est considérée comme étant un voleur d'après Rabbanan. Et donc il ne pourra pas jurer, puisqu'il y a une règle qui nous dit que quelqu'un qui est soupçonné de voler est aussi soupçonné de faux serment. Alors il me demande, Atula Mali, pourquoi avons-nous besoin de citer encore une deuxième fois un cas pareil? C'est-à-dire, pourquoi avons-nous besoin de citer une chose pareille dans la Mishnah? Alors, on répond, Tana Psula Doraita avec Tana Psula de Rabbanan. D'abord, nous avons écrit les choses qui se rendent inaptes à jurer d'après la Torah. Par exemple, quelqu'un qui s'est soumis d'un faux serment, il a fait un faux serment et puis il a changé un interdit de la Torah. Et après, on a écrit les choses qui rendent inaptes à jurer d'après Rabbanan. C'est-à-dire, les personnes qui fait des paris, alors là, il n'est voleur, mais que d'après Rabbanan, c'est que Rabbanan qui interdit de le voler. D'après la Torah, il n'est pas considéré comme étant un voleur. Donc, puisque d'après la Torah, il n'est pas considéré comme étant un voleur, alors il peut jurer. Seulement, Rabbanan, on dit qu'il est un voleur et qu'il ne peut pas jurer. La Gemara rapporte un autre problème. Ayouj Nehem Kashmi, si les deux parties étaient suspects de faux serment ou de voleur, etc., et donc elles ne peuvent pas jurer, nous avons vu dans la Mishnah, il y a une discussion entre Rabbi et Rabbi aussi. Est-ce que Yachloku, est-ce qu'ils partageront, ou alors Chazra Shvoalim Koma, ou alors est-ce que le serment retournera à sa place? Alors nous allons expliquer un peu plus tard, ça veut dire quoi, le serment retournera à sa place. Mais la Gemara ici a une autre question. Rabba lui a demandé à Rav Nachman, Echidnan, comment avons-nous appris? C'est-à-dire, Rabba avait un doute. Est-ce que c'est Rabbi Meir qui a dit il faudra partager, comme ce qui est écrit dans notre Mishnah? Ou alors, est-ce que c'est Rabbi Yossi qui a dit qu'il faudra partager? Et Rabbi Meir a dit, Chazra Shvoalim Koma, le serment retournera à sa place. Rav Nachman lui a répondu, Lo Yadana, je ne sais pas. Alors Rabba lui a dit, oh, ok, tu ne sais pas. Il chetamai. Comment la loi a été fixée? Moi la loi, dis-moi comment la loi a été fixée. Amar lui a dit, Loyadana, même ça je ne sais pas. Itmar, il a été dit, Amar Rabbi Yosef Bar Minyomi a dit, Amar Rav Nachman, non, Rav Nachman, Rabbi Yossi Amar Yachloku, c'est Rabbi Yossi qui a dit qu'il faudra partager. Et donc pas comme ce qui est écrit chez nous dans la Mishnah, Rabbi Meir Omer Yachloku, que c'est Rabbi Meir qui dit qu'il faut partager. Et demain Rabbi Zvid Bar Hoshaya a dit, Rabbi Yossi Omer Yachloku, c'est Rabbi Yossi qui a dit qu'il faudra partager. Il y en a qui disent, comme ça qu'il faut étudier. Tane Rabzid Amar Rabbi Shaya, Rabzid a dit au nom de Rabbi Shaya, Rabbi Yossi Omer Yachloku, Rabbi Yossi a dit qu'il faudra partager. Et donc Rabzid Bar Rabbi Shaya n'est pas venu amener une preuve à Rabbi Yosef Bar Minyami, mais Rabzid Bar Rabbi Shaya a dit quelque chose de lui-même. Et après, Amar Rabbi Yosef Bar Minyami, Rabbi Yosef Bar Minyami a dit, Avad Rav Nachman Uvda Yachloku, que lorsqu'une histoire pareille s'est passée devant Rav Nachman, alors Rav Nachman a fixé que la loi était qu'il faudra partager. Maintenant, la Gemara apporte un autre extrait de la Mishnah. Nous avons vu qu'il y a une discussion dans un cas où les deux ne peuvent pas jurer. Il y en a un qui dit qu'il faudra partager ces choses simples. L'argent sur lequel il y a une discussion, ils la partageront. Il y en a qui disent « Chazra Shvoalim Koma ». Donc, d'après ce que nous venons d'étudier, c'est Rabbi Meir qui dit « Chazra Shvoalim Koma ». Le serment retournera à sa place. La Gemara demande « L'Echad Chazra ». Où elle retourne? Ça veut dire quoi ça? Le serment retourne à sa place. Où il est venu? Où il part? Nos maîtres qui sont à Babel, Amrou, on dit, l'explication de ce qui se passe, c'est Chazra Shvoalim les Sinaï. Le serment est retourné au Sinaï. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu a ordonné que dans un cas pareil, une personne devra jurer. Mais s'il ne peut pas jurer, alors Akadosh Baruch Hu reprend son serment. Et donc ici, il n'y a pas obligation de jurer. Et donc aussi, il n'y a pas d'obligation ni de payer, ni de jurer. De payer parce qu'il n'y a pas de preuve pour l'obliger à payer et de jurer parce qu'il ne peut pas jurer. Nous et nos maîtres le serment retourne à la personne qui était obligée de jurer en premier. Par exemple, dans le cas où quelqu'un avoue en partie et il est suspect de faux serment, alors lui ne peut pas jurer sur ce qu'il a nié, alors nous faisons passer le serment sur celui qui l'a attaqué. Mais si celui qui l'a attaqué aussi ne peut pas jurer, alors nous ramenons le serment à la première personne, à celui qui a voué en partie et nié en partie. Et mitor sheno yachol lishava, puisqu'il ne peut pas jurer, yeshalem, il devra payer. Amar Rav Papa nous dit, Rabotenu chez Babel, nos maîtres de Babel, c'est Rabbi Shmuel. Rabotenu chez Israël, et nos maîtres d'Eretz Israël, c'est Rabbi Abba. Rabotenu chez Babel, Rabbi Shmuel, nos maîtres de Babel, c'est Rabbi Shmuel. Comment je le sais, Ditnan, parce que nous avons appris dans une Mishnah, dans notre Mishnah. Et de même, les orphelins, lorsqu'ils veulent se faire payer une dette, ils ne pourront se faire payer que par serment. Vinanba, et on a demandé là-dessus, Mima. Ces orphelins-là, ils veulent récupérer une dette de qui? Ilima Milove, s'ils veulent récupérer la dette directement de l'emprunteur, c'est-à-dire quelqu'un a emprunté de l'argent à leur père, et leur père est décédé, maintenant les orphelins veulent récupérer la dette de cette personne. Alors, avouons, Jacques Beloshwa. Leur père aurait récupéré cette dette sans serment. Vino Bishwa. Alors eux, ils doivent la récupérer avec un serment. Pour quelle raison devraient-ils jurer? Leur père n'aurait pas eu besoin de jurer. Alors pour quelle raison eux ont besoin de jurer? Et là, Hikama. Alors c'est comme cela qu'il faut dire. Et de même les orphelins, lorsqu'ils veulent se récupérer une dette des orphelins de l'emprunteur, alors ils ne pourront le faire que par serment. C'est-à-dire, si les orphelins du prêteur veulent récupérer la dette des orphelins de l'emprunteur, dans un cas où et le prêteur et l'emprunteur sont décédés, alors, ils ne pourront le faire que par serment. C'est-à-dire, ils doivent jurer que cette dette n'ait pas été payée ou que leur père n'a pas ordonné, ne leur a pas dit que cette dette est payée, etc. À ce moment-là, ils pourront récupérer leur dette. Mais Rav Shmuel d'un travail ou Rav Shmuel qui ont dit les deux ensemble, Lochanu, Elachemet, Malve, Bechaelove, tout ce que nous avons appris, que les orphelins pourront jurer et récupérer leur dette, c'est seulement dans un cas où l'emprunteur est mort et décédé pendant la vie du prêteur. Et dans un cas pareil, donc l'emprunteur n'a jamais été passible de serment, et donc les orphelins auraient pu récupérer du prêteur directement, même sans serment, et lorsque ce prêteur est mort, et cet emprunteur est mort, et les orphelins veulent récupérer des orphelins de l'emprunteur, alors là nous disons qu'ils doivent jurer. Aval mettre leur bébé chaïmal, mais si l'emprunteur est décédé pendant la vie du prêteur, et donc maintenant le prêteur, s'il avait voulu récupérer sa dette, l'emprunteur aurait dû, s'il avait voulu récupérer sa dette, il aurait dû jurer aux orphelins du prêtre de... Le prêteur, s'il avait voulu récupérer sa dette, il aurait dû jurer aux orphelins de l'emprunteur. Et donc maintenant, Ve'en Adam, Morish et Boa Libanav. Lorsque maintenant ce prêteur est décédé, alors il ne peut pas faire hériter à ses enfants de l'argent sur lequel il a une obligation de jurer. Et Rashi nous explique pour quelle raison. Alors il nous dit que comme ça, l'emprunteur, s'il avait voulu se faire payer des orphelins du... Non, le contraire. Le prêteur, s'il avait voulu se faire payer des orphelins de l'emprunteur, il aurait dû jurer que je n'ai pas reçu cet argent. Et lorsque maintenant ce prêteur est décédé et ces orphelins veulent jurer, alors eux, ils ne peuvent pas jurer le serment que leur père aurait dû jurer, c'est-à-dire, nous n'avons pas reçu ces dettes, parce que les orphelins ne savent pas s'ils ont reçu ou pas. Le seul serment qu'ils auraient pu jurer, c'est que notre père ne nous a pas dit que cette dette a été payée. Et ça, ce n'est pas le serment qu'ils doivent jurer. Donc maintenant, les orphelins du prêteur ne peuvent pas jurer. Alors nous allons dire peut-être que c'est les orphelins de l'emprunteur qui vont jurer. Et donc, devraient-ils jurer? Apparemment, ils devraient jurer. Nous jurons que nous avons payé ces dettes. Mais ça, ce n'est pas possible, car ils ne savent pas si leur père a payé ces dettes ou ne l'a pas payé. Et donc, alors dans un cas pareil, alors personne ne peut jurer. Alors c'est pour ça que Rav Shmuel ont dit que dans un cas pareil, personne ne jure et personne ne paye. Donc nous voyons ici explicitement que Rav Shmuel ont dit que dans un cas où personne ne peut jurer, ni on jure, ni on paye. Donc de même, dans notre cas chez nous, où les deux sont suspects, Rav Shmuel, c'est eux qui ont dit que ni on jure, ni on paye. La Gemara continue nous dit maintenant, Rabotenu Sheberet Israël, nos maîtres d'Eretz Israël, c'est Rabbi Abba. D'où je sais? Parce que Deao Gavra Dechataf Nasra Mechawi. Il y a un homme qui a pris, qui a volé un lingot de son ami dans la rue. Atale Kame de Rabbi Ami. Alors cette personne qui a été volée est venue devant Rabbi Ami. Yativ Rabbi Abba Kame. Et Rabbi Abba est assis devant lui. Aite Chatzade de Mirtafrat Famine. Et il a amené un témoin que cette personne lui a volé ce lingot des mains. Alors maintenant le voleur a dit, Amarle, il lui a dit, in khatfe, vedidi khatfe. C'est vrai que j'ai volé, mais ce que j'ai volé, c'était à moi, c'est-à-dire ce lingot, il m'appartient. Alors Amar Rabbi Ami, il a dit, Echili Dayanu Dayan El Adine. Comment les juges vont juger ce jugement? Neima les il chalib, de lui dire d'aller payer, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de témoins qui l'ont vu voler. Niftere, l'exempter complètement, ce n'est pas possible. Il y a un témoin qui l'a vu voler. Nima les ishtaba, et lui dire d'aller jurer pour contredire le témoin. Kevin de Amar Mirtav Khatfe, puisque maintenant cette personne qui a volé a dit oui, c'est vrai que j'ai volé, mais ce que j'ai volé c'est à moi. Avalé Kegazan, il est considéré comme un voleur par rapport à ce serment, c'est-à-dire, il ne peut pas jurer, car il y a une règle qui nous dit qu'une personne, lorsqu'elle veut jurer contre un témoin unique, elle doit contredire les dires du témoin unique. C'est-à-dire, si le témoin a dit j'ai vu que tu as volé, alors il doit jurer et dire je n'ai pas volé. Et jurer et dire qu'il n'a pas volé, ça il ne peut pas le dire, parce que lui-même a avoué qu'il a volé. Rabbaba lui a dit, ça s'appelle quelqu'un qui est obligé de jurer et qui ne peut pas jurer. Et chaque personne qui est obligée de jurer et ne peut pas jurer, Meshalem devra payer. Donc ici nous voyons explicitement que Rabbaba pense que lorsqu'une personne ne peut pas jurer, elle devra payer. Donc automatiquement ici, la même chose chez nous, dans le cas où les deux sont suspects et ils ne peuvent pas jurer, alors, là, le serment retourne vers la personne qui était obligée de jurer en premier, et puisqu'elle ne peut pas jurer, alors elle devra payer. Amarava, alors Rava nous dit, Kevate de Rabbi Abba, Mistawa. Comme ce qu'a dit Rabbi Abba, c'est plus logique. C'est-à-dire que dans un cas où une personne ne peut pas jurer, elle devra payer. Détané Rabbi Ami, parce que Rabbi Ami a pris, Chevoat Hashem Tie Ben Shneim. Le serment de Hashem sera entre les deux parties. Velo Ben Ayorshin, et là nous apprenons que pas entre les héritiers des deux parties. Alors Gmar demande, Echidame. De quel cas parlons-là? Il imada amarle mané le ababeyadavicha. Si nous parlons d'un cas où quelqu'un a dit, il y a un mané de mon père entre les mains de ton père, et donc maintenant, tu dois me le rendre. Et les orphelins du prêtre, de l'emprunteur, on avait amarle, il lui a répondu, chamishin itle ve chamishin etle. 50, c'est-à-dire la moitié du mané, c'est vrai qu'on te doit, mais 50, on ne te doit pas. Alors, mali ou mali avoir, quelle différence y a-t-il entre les orphelins du prêteur ou l'orphelin de l'emprunteur ou l'emprunteur en lui-même, c'est-à-dire le père de ces orphelins. De même que le père, il s'appelle dans un cas pareil, s'il a dit une chose pareille, qu'il avoue en partie et nie en partie. De même, les orphelins s'appellent qu'ils avouent en partie et nient en partie. Et donc, ils sont obligés de jurer sur ce qu'ils nient. Alors, pour quelle raison le verset est venu nous exempter d'un cas pareil? Et là, alors n'est-ce pas, de Amalé, que les orphelins du prêteur lui ont dit, Mané le Ababe Adavicha, ton père a un mané à notre père entre ses mains. Et Amarle et les orphelins de l'emprunteur ont dit, Chamishin Yadana, c'est vrai, 50, on sait que notre père il vous doit. Mais Chamishin lo Yadana, mais 50, on ne sait pas.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Alors dans un cas pareil, et Amar Bishlamag Aviv Kaigav Namichayev, si tu me dis que dans un cas pareil, son père aurait été passible de serment, alors je peux comprendre. C'est-à-dire, si dans un cas pareil, son père aurait été passible de serment, il aurait dit 50 je te dois, 50 je te dois pas. Ça veut dire qu'il avoue en partie. Donc maintenant, sur ce qu'il ne sait pas, il doit jurer. Et puisqu'il ne peut pas jurer parce qu'il ne sait pas, il ne peut pas jurer, je jure ne pas te devoir, puisque lui-même ne sait pas s'il lui sait ou pas, s'il lui doit ou pas. Donc dans un cas pareil, il aurait été obligé de payer. Comme ce qu'a dit Rababa, Mitorcheno Yecholishava, Meshalem, puisqu'il ne peut pas jurer, il paye. Alors je peux comprendre, Isteikra, les Miftar Gabayorshi. Alors je peux comprendre qu'un verset est venu nous dire que dans un cas pareil, c'est vrai que le père aurait été obligé de jurer, et puis s'il ne peut pas jurer, il doit payer. Mais les orphelins et les héritiers de cette personne-là, eux, ne sont pas obligés de jurer. Elle a eu un martaviv qui a gamné l'ami Pato, mais si tu me dis que son père, même dans un cas pareil, aurait été exempt de serment, hein, comme ce qu'en dit Rav Ishmuel, que dans un cas où une personne ne peut pas jurer, alors elle est exempte de serment, et donc automatiquement ici, puisqu'il ne peut pas jurer, puisqu'il ne peut pas dire, je jure ne pas te devoir de l'argent, puisque lui-même ne sait pas, alors il était exempt de serment, hein, alors Kragabeyoshinamali. Alors pourquoi avons-nous besoin d'un verset pour nous dire que les héritiers de cette personne aussi n'auront pas besoin de jurer? Le père n'a pas besoin de jurer, alors c'est sûr que les orphelins n'auront pas besoin de jurer. Donc, s'il y a un verset qui est venu pour nous dire que les orphelins sont exempts de jurer, c'est obligatoirement parce que la logique dit, comme Rabbi Abba, qu'une personne qui ne peut pas jurer est quand même obligée de jurer, puisqu'elle ne peut pas jurer, elle paye. Alors, la Gemara demande maintenant que d'après Rav Shmuel, comme nous avons expliqué, nous n'avons pas besoin de verset pour exempter les orphelins de jurer. Alors, Aïchevot Hashem, Maïkad Archebe, alors de ce serment, le serment de Hashem sera entre les deux parties. Qu'est-ce qu'ils apprennent avec ce verset? Ma réponse, Mibaïelech de Tanya Rabbi Shimon ben Tarfon. Nous en avons besoin parce que nous a appris Rabbi Shimon ben Tarfon. Parce que Shimon ben Tarfon Omer, Shimon ben Tarfon nous dit, Shevoat Hashem tiye ben Shneem, le serment de Dieu. Ça vient nous apprendre que le serment se rapporte sur les deux parties. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement celui qui a juré, le serment retombe seulement sur lui, mais sur les deux parties, c'est considéré comme si les deux avaient juré. Shimon Metaphon nous dit une autre chose encore. Azara le rokev achar anoef minaim. D'où apprenons-nous que quelqu'un qui est entré, une autre personne qui aide une personne à faire l'adultère, c'est aussi une chose interdite. Talmud Lomar, le verset nous dit Lotinaf, tu ne feras pas l'adultère. Et nous pouvons lire Lotanif, tu ne feras pas faire l'adultère. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement interdit de faire l'adultère, mais c'est aussi interdit d'aider quelqu'un à faire l'adultère. Vateragnu baolechem. Il y a un autre verset encore. Et ici, nous disons plusieurs versets. Il écrit un verset à propos de Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a reproché, avant de mourir, il a fait des reproches aux Béné Israël. Alors, un des reproches, il leur a raconté toute l'histoire des Meraglim, des espions que les Béné Israël ont envoyés en Israël. Alors, il leur a dit, vous avez envoyé des espions, et lorsqu'ils sont revenus, les espions ont dit du mal de Eretzrel, Vateragnu Baolechem, et vous, vous avez murmuré dans vos tentes pour dire du mal. Alors, Shimon ben Tarfon, Omer, Shimon ben Tarfon nous dit, Tardem Veginitem. Vous avez murmuré, c'est vrai que la traduction c'est vous avez murmuré, mais en fait on peut expliquer tartem, c'est-à-dire vous avez exploré, veginitem, et vous avez dit du mal. C'est-à-dire dans le mot vateragnu, il y a c'est composé de ces deux mots-là, de tartem, veginitem. Vous avez exploré et vous avez dit du mal, baolosh el makom, dans la tente de Hachem, c'est-à-dire dans la maison de Hachem. La maison de Hachem, c'est bien sûr Israël, l'endroit, la terre préférée de Hakadosh Baruch Hu. Ensuite, Shimon ben Tarfon vient nous expliquer encore un autre verset. Il est dit Adanahar Agadol Nehar Perat, que les frontières d'Eretz Israël seront jusqu'au grand fleuve, le fleuve de Perat. Et une question qui se pose, le fleuve de Perat n'est pas considéré comme étant le plus grand fleuve, c'est un petit fleuve. Alors Shimon ben Tarfon Omer, Shimon ben Tarfon nous dit Karav le gabe de Hina Veidan, quelqu'un qui touche, quelqu'un qui s'est enduit d'huile, alors lui aussi il sera huilé, c'est-à-dire lui aussi il aura de l'huile sur ses mains. Et c'est-à-dire que de même chez nous, dans notre cas, puisque ce fleuve a été considéré comme étant une des frontières d'Eretz Israël, qui est un grand pays, qui est un beau pays, qui est le meilleur pays, alors lui aussi nous le considérons comme étant le grand fleuve. Deber Rabbi Ishmael Tana, et Deber Rabbi Ishmael, ils ont repris, Eved Meler ke Meler, le serviteur du roi est comme un roi. C'est-à-dire que puisqu'on est proche du roi, on a les mêmes considérations que le roi. Et donc de même ici, et le fleuve qui est une frontière d'Eretz Israël, qui est en fait Eretz Israël considéré comme étant le meilleur pays, alors même si le fleuve n'est pas le plus grand fleuve, mais nous l'appelons un grand fleuve. Maintenant la Gemara rapporte un extrait de la Mishnah. Renvani al Pinkaso est le cas du marchand sur son carnet, c'est-à-dire nous avons expliqué un cas où quelqu'un a dit à un marchand donne pour tant et tant d'argent à mon employé en tant que salaire, et après l'employé dit j'ai pas reçu, et le renvani, le marchand dit je lui ai donné, et donc maintenant les deux réclament leur argent du balabait de cet employeur. Alors dans un cas pareil, les deux doivent shnaim nishbaim elokim, les deux jurent et pourront récupérer leur dû, ce qui leur est dû. Alors Tania, nous avons appris dans une braïda amarevi rabbi a dit torah shvuah zolama, pourquoi avons-nous besoin de ces deux serments? Et Rashi nous dit que nous ne savons pas qu'est-ce que Rabbi pense. Est-ce que les deux prennent sans jurer, comme ce qu'a dit Ben Anas dans la Mishnah, ou alors que si les Poalim jurent, c'est-à-dire si les employés jurent, alors qu'ils n'ont pas reçu, le Renvani, le marchand, sera obligé de leur payer, et c'est le Renvani qui perdra. Amar les Rapria, alors Rapria lui a dit, Tanina, tu nous as déjà appris dans la Mishnah, Shneem Nishbaim Venotlim Ibalabait, les deux jurent pour pouvoir prendre de l'employeur et pouvoir récupérer ce qu'il aurait dû. Alors la Gemara demande, qui blaminé? Est-ce que Rabbi a accepté cette chose, que les deux jurent, même s'il y a un serment, même si c'est sûr qu'il va y avoir un serment à faux, holo? Ou alors il n'a pas accepté cette chose, et donc il n'accepte pas que les deux jurent. Holo qui blaminé, ou alors il n'a pas accepté. Alors Tashma, bien écoute, Détania, parce que nous avons écrit dans une braïta, hein. Rabbi Omer, Rabbi nous dit que dans un cas pareil, pour Alim Nishbaim Lechenvani, les employés devront jurer aux marchands. Veimita, et si Rabbi avait accepté la chose que Le marchand et les employés jurent à l'employeur, pour pouvoir récupérer ce qu'il aurait dû, les balabait mi baïele. C'est à l'employeur qu'ils auraient dû jurer. Pourquoi disons que les employés jurent au marchand? Alors Rava nous dit, non, pour Alim Nishbaim, les balabait, les employés jurent à l'employeur, Bemahamad Renvanim, devant le marchand. Pourquoi? Qui hérite de l'irsifouminé, pour qu'ils aient honte de lui. C'est-à-dire que si vraiment ils ont déjà pris la marchandise du marchand, comme ce qu'a dit ce marchand, et donc maintenant en fait ils mentent et ils veulent récupérer une seconde fois leur salaire du propriétaire, alors nous amenons le marchand, comme ça s'ils mentent, ils vont avoir honte de mentir devant quelqu'un qui sait qu'ils mentent. Alors ils reviendront sur ce qu'ils ont dit et ils ne jureront pas. Et s'ils jurent pour de vrai, comme eux ils disent on n'a pas reçu de salaire, alors peut-être qu'ils disent la vérité. Itmar, il a été dit. C'était quitté Edim, deux groupes de témoins, à Makrishot, Zo et Zo, qui contredisent l'une l'autre. C'est-à-dire, une dit, par exemple, un groupe de témoins dit, monsieur Antel a emprunté de l'argent, et l'autre groupe de témoins dit, non, monsieur Antel n'a jamais emprunté de l'argent. Donc, il y a une contradiction entre ces deux témoins. C'est sûr qu'il y a ici un groupe qui ment. Alors, Amar Ravuna, Ravuna nous dit, Zo ba bifnatsma omeida, ve zo ba bifnatsma omeida. Ce groupe-là peut venir à part témoigner, et ce groupe-là peut venir à part témoigner, bien sûr, sur un autre témoignage. C'est-à-dire que puisque nous ne savons pas lequel des deux groupes est sur un menteur, alors lorsqu'ils viennent à part témoigner, nous leur donnons l'avantage du doute et nous disons que eux, c'est les vrais témoins, et les autres, c'est les menteurs. Et de même, lorsque les autres viendront, puisqu'il y a un doute, alors nous disons que eux, ce sont les vrais, les autres, c'est les menteurs, etc. Donc chacun peut venir à part témoigner. Rav Frida nous dit « Behadesal de chaque lamali » Pourquoi avons-nous besoin de témoins mensongers? Puisqu'ici, il y a un doute, c'est fini. Les deux groupes sont inaptes à témoigner. Et donc, ils ne peuvent pas venir témoigner. Même séparément. Maintenant, la Gemara rapporte des cas et va demander quelle est la loi dans ces cas pareils. Shne malvim, ve shne lovim, ve shne shtarot. Si il y a eu deux groupes qui se sont contredits l'un à l'autre, comme nous avons dit. Par exemple, quelqu'un a dit « Monsieur Antel a emprunté de l'argent de Monsieur Tel ». Et l'autre groupe dit « Non, Monsieur Antel n'a pas emprunté de l'argent de Monsieur Tel ». Alors, dans un cas pareil, c'est une contradiction. Maintenant, que se passe-t-il si ces deux groupes de témoins ont signé des reconnaissances de dette à deux personnes différentes? C'est-à-dire, le groupe numéro 1 a signé sur une reconnaissance de dette. C'est-à-dire, ils ont signé en tant que témoin sur une reconnaissance de dette numéro 1. Et le groupe de témoin numéro 2 a signé sur une reconnaissance de dette en tant que témoin sur une reconnaissance de dette numéro 2. Donc ici, il y a deux prêteurs, deux emprunteurs et deux contrats de reconnaissance de dette. Alors, Aïnou Plouktaïou, ça c'est la discussion entre Ravuna et Rafrida. Est-ce que nous pouvons dire que chacun vient à part et témoigner et sera cru? Et donc, dans un cas pareil, les deux reconnaissances de dette, si elles viennent à part au tribunal, alors elles sont bonnes, elles sont cachères. C'est-à-dire, le prêteur pourra récupérer sa dette. Ou alors, d'après Rafrida, il nous dit que puisqu'ils ont fait un témoignage à faux, nous avons un doute, alors les deux sont inaptes à témoigner. Donc, automatiquement, les deux reconnaissances de dette ne seront pas saoules, seront considérées comme étant signées par des témoins mensongers. Et donc, le prêteur ne pourra pas récupérer sa dette. Maintenant, s'il y a malvé velové veshneshtao.
De son ami deux fois.
Donc maintenant, il y a deux reconnaissances de dette. Et sur ces deux reconnaissances de dette, sur la première, il y a le groupe numéro 1 qui est signé en tant que témoin. Et sur la deuxième, le groupe numéro 2 a signé en tant que témoin. Donc maintenant, dans ces deux reconnaissances de dette, c'est sûr que sur une des reconnaissances de dette, il y en a une qui a été signée par des faux témoins. Alors dans un cas pareil, Yad Baal Ashtar la Tartona, le propriétaire des reconnaissances de dette aura le désavantage, c'est-à-dire le prêteur aura le désavantage, puisque l'emprunteur, c'est sûr qu'il a emprunté ici au moins un prêt, alors il pourra toujours dire sur le prêt le plus grand, par exemple il y a un prêt d'une somme de 1000 francs et un prêt d'une somme de 500 francs, alors il pourra dire sur le prêt de la somme de 1000 francs, celui-là a été signé par des témoins mensongers, donc je ne te le paye pas, mais l'autre, c'est sûr qu'il a été signé par des vrais témoins. Donc c'est pour ça qu'il devra payer au moins le contrat de reconnaissance de dette de la somme minimale. Maintenant, la Gemara demande un autre cas. Shne malvim, velove echad, veshne shtarot. C'est-à-dire, il y a un groupe, une personne qui a emprunté de l'argent de deux personnes. Monsieur un tel a emprunté de l'argent de monsieur 1 et de monsieur 2. Et maintenant, sur la reconnaissance de dette de monsieur 1 est signé le groupe de contrat de groupe de témoins numéro 1. Et sur la reconnaissance de dette de monsieur 2 est signé le groupe de témoins numéro 2. Donc maintenant, aussi, nous disons que c'est sûr que dans un cas pareil, il y a une reconnaissance de dette qui a été écrite par des témoins qui sont inaptes à témoigner. Et donc, ils sont considérés comme étant des faux témoins, des témoins qui ne sont pas cachés et qui sont inaptes à témoigner. Et donc, la reconnaissance de dette n'est pas bonne. Et donc, l'emprunteur ne pourra pas récupérer sa dette. Alors maintenant, lequel des deux prêteurs ne pourra pas récupérer sa dette ? La Gemara nous dit, Aïno Matnitin. Ce cas-là, c'est le même cas que dans notre Mishnah. C'est-à-dire, de même que nous avons vu dans le Chen Vani El Pinkaso, de le cas du marchand qui a écrit sur son carnet. Là-bas, il y a une seule personne, c'est-à-dire l'employeur, qui doit de l'argent à deux personnes. Au Chen Vani, alors au marchand, et au Poralim, et aux employés. Maintenant, c'est sûr qu'il y a une des deux personnes qui ment. Alors que faisons-nous ? Alors, nous avons dit, les deux devront jurer pour récupérer leur dette. La même chose ici, dans notre cas, ce sera la même chose. Il y a une personne qui empruntait de l'argent à deux personnes. Maintenant, une des deux reconnaissances de dette n'est pas valable. Alors, nous ne savons pas laquelle. Alors, qu'allons-nous faire ? Qu'allons-nous dire ? Alors, nous disons que les deux prêteurs, s'ils veulent récupérer leur dette, devront jurer. Maintenant, la Gemara demande un autre cas. S'il y a Bet Lovim, deux emprunteurs, ou Malveirad, et un seul prêteur, Veshnesh Tarot, et deux reconnaissances de dette. C'est-à-dire, une seule personne a prêté de l'argent à deux personnes. Alors, et maintenant, au prêteur numéro 1 a signé le groupe de témoins numéro 1. Et au prêteur numéro 2 a signé le groupe de témoins numéro 2. Donc maintenant, c'est sûr aussi à nouveau qu'une des reconnaissances de dette ici a été signée par des témoins qui ne sont pas valables. Et donc, cette reconnaissance n'est pas valable et l'emprunteur ne pourra pas récupérer sa dette. Alors, quelle est la loi dans un cas pareil ? C'est-à-dire, nous demandons d'après Ravuna qui a dit que Zuba bifnatsma omeida, ve Zuba bifnatsma omeida. Chacun peut venir séparément pour témoigner. Alors, dans un cas pareil, que disons-nous ? Est-ce que, puisque c'est le même prêteur, alors c'est considéré que les deux témoins viennent témoigner en même temps, et c'est sûr qu'il y a un groupe de menteurs, et donc maintenant, chaque emprunteur pourra dire à l'autre, non, c'est toi qui es le vrai emprunteur, et moi, je suis un emprunteur qui a été signé par des faux témoins. Moi, c'est un mensonge, cette reconnaissance de dette. Et donc, chacun pourra dire à l'autre comme ça que moi, cette reconnaissance de dette qui sort sur moi, c'est une reconnaissance de dette mensongère qui a été signée par des témoins qui sont inaptes. Et donc, elle est inapte. Et donc, à chacun fera passer la faute sur l'autre. Et donc, le prêteur ne pourra pas récupérer sa dette. Ou alors, nous allons dire que puisqu'il vient et qu'il réclame son argent séparément de chaque personne, alors ça s'appelle Zuba Bifnatsma Omeida, et Zuba Bifnatsma Omeida, chaque groupe peut venir séparément témoigner, et donc il attaque l'emprunteur numéro 1 séparément et récupère sa dette de l'emprunteur numéro 1, puis après il attaque l'emprunteur numéro 2 séparément et il récupère sa dette de l'emprunteur numéro 2. Ma nous dit Teiko, il n'y a pas de réponse. Metiv Ravuna Bar Yehuda, Ravuna Bar Yehuda demande, parce que nous avons appris dans une braïta, à propos de Kiddush HaKodesh, à propos de deux témoins qui viennent témoigner qu'ils ont vu la lune pour nous dire qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, le premier du mois.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.